Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxyjeux réalisée lors du Festival international des jeux de Cannes. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Lana et je suis accompagnée de Drew. Bonjour Drew.
Bonjour Lana.
Et nous accueillons aujourd'hui Alice et Arsène de Cap Game. Bonjour Alice.
Bonjour.
Bonjour Arsène.
Bonjour.
Et tout à l'heure, nous rejoindra Stéphanie Lemeur qui les encadre sur ce beau projet. Alors, je parle de projet, mais qu'est-ce que c'est ce projet ?
Alors du coup, nous, on était des collégiens, on avait une option et on a dû créer un projet et faire une entreprise. Faire tout ce que les entrepreneurs feraient. Et donc, nous, on a créé Cap Game, qui est l'éditeur de Tonnerre de Tuiles, qui est notre jeu de société aujourd'hui.
C'était quoi le principe du projet que vous deviez faire ? Il y a eu plusieurs idées, il y avait des contraintes ?
Alors, du coup, c'était avec Entreprendre pour Apprendre, qui est une association qui aide des personnes à créer des mini-entreprises dans des collèges, lycées, BTS, etc. Et donc, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Le but, c'était de faire une entreprise et de vendre un service ou un produit pour après intégrer d'autres choses et avancer. Donc nous, on a fait un jeu de société en pensant qu'on allait faire ça au collège, les imprimer, les découper et puis les donner à nos familles. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec une édition de 1000 jeux et d'autres belles aventures qui continuent. Donc.
Et alors, il y a combien de personnes qui ont travaillé sur ce projet ?
Alors, on est actuellement 15 à travailler sur le projet. On était 17 l'année dernière, mais il y a des personnes qui ont dû partir du collège pour X raisons.
Ça veut dire que c'est un projet qui dure là déjà sur 2 ans.
Oui, tout à fait.
Et donc quand tu parles de 17 personnes, c'est 17 collégiens ou il y a des adultes avec vous qui vous suivent ?
Alors, on était 17 collégiens. Maintenant, donc on est 15 collégiens plus un adulte donc qui nous encadre pour tout ce qui est juridique et qui nous guide un petit peu. Donc, c'est Madame Lemeur, enseignante de français.
C'est elle qui gère donc l'option micro-entreprise ?
Enfin, ou... Oui, tout à fait.
Alors, vous avez créé un jeu. D'où vient l'idée ? En quoi consiste le jeu ?
Du coup, nous, on a eu 4 mois de brainstorming entre septembre et janvier de l'année dernière. On était partis sur plusieurs idées et on s'était dit qu'au pire, on les ferait plus tard. Le jeu est resté parce que c'est quelque chose qui pouvait inclure tout le monde, la mini-entreprise. Quelque chose qu'on n'a pas beaucoup, des jeux déjà adaptés qui sortent, c'est pas récurrent. En général, les maisons d'édition les font puis les adaptent. Et donc, nous, on voulait se démarquer du reste.
Donc, tu cites que c'est un jeu adapté. Alors, adapté à quoi ?
Adapté aux personnes porteuses de handicap moteur et dyslexiques. Dyslexiques, car ce sont des pictogrammes qui peuvent s'apprendre au bout de 3, 4, 5 parties. Et porteuses de handicap moteur, car les pions sont adaptés pour une meilleure prise en main. Et les tuiles sont épaisses pour pouvoir les retourner facilement.
Donc, c'était une volonté depuis le départ du projet ?
On avait un cahier des charges très serré où on voulait que ce soit éco-responsable sans plastique et inclusif pour que tout le monde puisse participer, que ce soit n'importe quel le projet. On a pris un cahier des charges et on a cherché toutes les idées possibles par rapport à ce cahier des charges.
Et vous avez adapté l'idée du jeu que vous aviez déjà ou l'idée a germé avec toutes ces contraintes ?
Non, en fait on a fait un moule un petit peu avec toutes les idées, tous les cahiers des charges comme l'a dit Alice qu'on avait. Et on a donc essayé de créer un projet... qui est donc le jeu de société qui est rentré un petit peu dans ses critères. Donc après l'idée du jeu, il a fallu avoir l'idée du thème, des mécaniques et tout ça. On voulait que ça rentre toujours dans le thème. Donc à chaque fois qu'on mettait une mécanique, des cartes, des choses comme ça, il fallait que ce soit adapté. Donc on se creusait la tête au fur et à mesure.
Donc tout ça s'est validé avec 17 personnes ?
Oui, tout à fait. Des fois c'est un peu compliqué quand on est 17 de prendre une décision. Donc on votait à main levée, on se débrouillait pour que tout le monde soit à peu près content.
Et on va dire qu'il y en a qui ont donné leurs idées, qui ont été prises ou gardées. Chacun a mis un peu sa main à la pâte, si je peux dire. Chacun a donné quelque chose qui lui appartient dans le jeu. Après, aujourd'hui, on n'est pas 15 investis, parce que comme dans toutes les équipes, il y en a qui sont investis moins, enfin, d'autres moins. Il y en a qui sont là sur les heures obligatoires, je dirais, que le collège impose. Et il y en a qui prennent de leur temps libre, comme nous, pendant nos vacances, on vient ici. Donc après, il y a toujours des personnes plus investies que d'autres. Et il y en a qui vont garder ce projet... entre guillemets à vie et qui vont s'en servir pour la suite et d'autres qui vont le banaliser complètement et dire que c'est pas eux qu'on fait.
Parce qu'effectivement, donc on n'a pas cité d'auteur pour ce jeu puisque vous êtes en gros 15 ou 17 auteurs pour à l'avoir créé. Donc c'est un peu bizarre effectivement sur la boîte, il y a marqué donc Cap Games, Cap Games qui est le nom. Et justement d'où vient ce nom Cap Games ?
Alors en fait, Cap, on trouvait que c'était plutôt facile à retenir. Au début, c'était ça qu'on voulait que ce soit, enfin, notre nom, on va dire. Cap, ça vient de capable. Et on a dit que ça faisait pas trop penser au jeu, en fait. Donc on a décidé de rajouter game pour faire plus penser au jeu et voilà.
En fait, on a trouvé l'idée du jeu. On a donc trouvé un nom pour l'entreprise. Enfin, du coup, l'éditeur aujourd'hui. Cap pour capable, handicap et garder le cap, ce qui nous correspondait bien. Et donc games pour savoir que c'est un jeu. Et ensuite, on a dû trouver un nom pour le jeu car Cap Games n'était pas un jeu adapté. Ça n'allait pas avec la thématique et c'était donc l'entreprise et pas le produit.
Alors la thématique, on n'en a pas encore parlé. De quoi s'agit-il ?
C'est un jeu qui parle de mythologie grecque. Pas besoin de connaissances, ça évoque la mythologie grecque. C'est pas un jeu de connaissances, c'est pas un quiz. C'est juste un jeu où on s'est appuyé sur ces thématiques-là pour en faire un jeu ludique et intergénérationnel. Du coup, le but, c'est de gravir une montagne. Cette montagne, c'est le Mont Olympe. Pour accéder au Mont Olympe, Zeus a perdu son fils Arès, donc il manque un dieu à l'Olympe, ce qui n'est pas négligeable, il manque quand même un dieu dans la mythologie. Vous êtes donc appelé en tant que demi-dieu pour gravir cette montagne et prouver que vous êtes le plus fort et celui qui doit devenir le nouveau dieu. Pour ça, vous êtes aidé de 5 dieux qui représentent de manière imagée des handicaps visibles et invisibles. On a notamment Athéna qui est dyslexique et Héphaïstos qui est en situation de handicap moteur. Et les handicaps ont été réfléchis selon leur histoire et selon leur place dans la mythologie grecque.
Le but de ce jeu était vraiment de montrer le côté plutôt positif du handicap, ce qui fait que dans notre jeu, les dieux tirent leur pouvoir du handicap, en fait.
Quel style de pouvoir ils ont, justement ?
Ah, alors, ça va dépendre. Donc, Héphaïstos se sert de son fauteuil pour aller beaucoup plus vite. Athéna se sert de son esprit de 10, donc de vision 3D, pour nous avantager sur le champ de bataille, c'est-à-dire faire pivoter des tuiles, plutôt ce genre de choses. Vous avez aussi Hadès qui est aveugle, qui va lui plutôt vous trouver des passages, c'est-à-dire vous trouver un petit raccourci. Voilà.
Et la mécanique du jeu, donc c'est un jeu à base de tuiles. Vous disiez tout à l'heure des tuiles épaisses pour pouvoir les prendre. Et comment ça fonctionne ?
Du coup, un tour de jeu, je dirais classique. On prend une carte, on retourne la tuile et la tuile nous indique dans quel sens nous irons au prochain tour.
D'accord. Et tout ça dans le but de gravir cette montagne de tuiles pour être le premier à arriver au sommet.
Tout à fait.
Donc un petit jeu de course avec des effets de cartes qui vont permettre d'aller faire des petites crasses aux copains d'à côté.
Exactement.
On va parler maintenant de l'édition de ce jeu. Vous avez fait des choix très orientés. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de l'édition ?
Alors du coup, nous, on n'a pas voulu aller vers un éditeur. Le but, c'est que ce soit notre projet, nos décisions jusqu'au bout. Parce que quand on va chez un éditeur, on le sait, l'éditeur remanie ce qu'il a besoin de remanier et fait en sorte que ça marche au commerce, enfin, sur le commerce actuel, surtout par rapport à ses convictions à lui. Nous, on voulait que ce soit une production française et locale, ça nous tenait à cœur, sans plastique, car on voulait qu'il soit complètement éco-responsable, mais qui dure quand même dans le temps, parce qu'on sait, le plastique dure dans le temps, mais on voulait quelque chose d'éco-responsable, que les gens se disent wow, « Waouh, c'est éco-responsable, mais on peut quand même le garder pendant 10, 15, 20 ans ». À l'avenir.
On a donc essayé d'utiliser des matières innovantes comme le plastique qui entoure l'emballage, qui n'est en fait pas du plastique mais une feuille de soja qui a été remâchée en fait, puis ensuite étalée. Vous avez aussi les pions qui sont faits en poudre de coquille d'huître et plastique recyclé.
Et tout ça fait localement, alors en France ou...
C'est plus particulièrement fait en Bretagne. Le jeu est imprimé à Brest en encre végétale, ce qui lui permet d'être, entre guillemets, si on le jette au compost, il va se décomposer très simplement. Ce qui n'est pas le but, hein, bien sûr, c'est qu'il dure... comme je vous disais, le plus longtemps possible.
Et c'est vous qui avez fait des recherches ou vous avez été accompagné pour trouver toutes ces entreprises ?
On a été... En fait, nous, on a fonctionné sous partenariat. C'est-à-dire, c'est des contreparties. On a fait des dossiers, on a été démarcher des entreprises pour avoir des fonds. Et donc, on a Compositique qui nous accompagne sur les pions, qui nous fabrique les pions, qui nous a offert un moule pour faire nos pions. Et après, on travaille avec Ludotopia pour l'impression de notre jeu aujourd'hui.
C'est lui qui a trouvé du coup le composé qui crée les avec les pions.
Les pions, c'est nous qui avons fait nos propres recherches. C'est nous qui avons été démarcher Compositique. Compositique nous a dit bon bah nous on a ça qui est innovant. On va le faire avec vous pour les pions. On l'a encore jamais fait mais allons-y, ça nous tente. Et après pour tout ce qui est d'impression et l'emballage en feuille de soja, c'est donc Ludotopia qui nous a proposé ces alternatives là.
Financièrement, vous êtes une micro-entreprise. Vous avez récupéré assez de fonds pour lancer une production.
Oui, au début on partait de 0€. Donc on a dû aller démarcher des entreprises pour imprimer ce jeu. Il nous a fallu environ 12 000 euros. Donc c'était pas 12 000 euros donnés. On a dû donc aller chercher les entreprises nous-mêmes, des fois pendant le week-end, après les cours. Donc on passe de la petite entreprise jusqu'à SNCF. La petite entreprise, ça peut être la boulangerie du coin et voilà.
Et vous avez réussi à imprimer combien de boîtes ?
Là, on était parti sur une première impression. On est passé par beaucoup de choses. Au premier abord, on s'est dit, bon, on en fait 100, ce sera cool, chacun en aura un, on va en vendre quelques-uns dans notre ville, et puis voilà quoi. Puis après, on est passé à 500, on s'est dit, bon, voilà, 500, on va essayer de les écouler, on va y arriver. Puis quand on s'est vu que la campagne Ulule fonctionnait aussi avec des contreparties, on était arrivé à 500 précommandes, on s'est dit, oula, on va en faire 1000. Donc là, on est arrivé à 1000, on pouvait pas aller plus de 1000 parce que financièrement, on pouvait pas suivre, il y avait pas assez de partenaires et on n'aurait pas pu aller plus loin. Donc on en a fait premièrement 1000, puis là, on part sur une seconde édition entre 1000, 2000, 5000 selon les rencontres qu'on fera sur ce salon.
Donc vous êtes passé par Ulule, une campagne de financement participatif qui vous permet d'avoir également des sous pour lancer les productions.
En fait, on a fait une campagne il y a 4 mois. Qui a duré un mois et demi, et donc ça nous a permis de lancer aussi, de nous faire un petit à-compte, si je dis, pour pouvoir lancer cette production.
Comment s'est fait la communication?
Alors, on s'est répartis par pôle. Donc, on a un pôle qui s'occupe de la communication, que je tiens à remercier, parce qu'ils gèrent vraiment. Ils ont fait énormément de posts Instagram, ils nous ont permis d'avoir un petit réseau quand même, de nous faire connaître. Donc, voilà en quoi ils nous ont vraiment aidés. Donc, on a réussi à se faire connaître comme ça. Après, le fait qu'on soit au collège a aussi ému, si je peux dire, les professionnels du jeu qui nous ont fait parfois de la pub.
Donc, vous avez utilisé beaucoup les réseaux sociaux.
On s'est vraiment créé un réseau assez grand. On est fiers de ça aussi parce que c'est aussi notre force. C'est qu'on est, entre guillemets, des jeunes qui se servent de ce qu'on nous reproche d'utiliser pour faire un réseau et réussir à communiquer et arriver aujourd'hui à Cannes grâce à ça. Donc, c'est aussi une fierté.
Et donc, justement, les copies que vous avez faites, vous les vendez dans des festivals, et notamment à Cannes. Donc, vous êtes venu ici avec plusieurs centaines de boîtes. C'est justement comme ça que j'ai appris votre existence, d'ailleurs, puisque vous cherchiez des solutions de transport pour ramener les boîtes depuis votre collège jusqu'ici. Visiblement, vous avez trouvé, tant mieux. Et comment ça se passe, du coup, pour acheter le jeu? Ça sera forcément au festival?
Du coup, nous, on fonctionne assez simplement. On a un site internet où on peut commander directement, se faire livrer. On peut commander tous nos produits. Donc, on a le jeu et des porte-cartes. Et après, sinon, sur les salons qu'on fait, et puis là, peut-être prochainement, dans vos espaces culturels Leclerc. On essaye de travailler avec la centrale d'achat Leclerc. Rien n'est signé, rien n'est fait, mais on travaille dessus.
Tu parles de porte-cartes, c'est également un élément du jeu ou à côté du jeu qui a été réfléchi de façon éco-responsable?
Du coup, nous, on a Loan qui est en fauteuil dans notre équipe, pour qui 60% des bénéfices de ces ventes lui seront reversés. Et donc, elle nous a dit, bah, c'est bien hein, de faire un jeu, mais moi, je ne peux pas jouer, je ne tiens pas les cartes. Et donc là, on a commencé à réfléchir et elle nous a dit, des porte-cartes, ça existe. Par contre, aujourd'hui, il y en a beaucoup en plastique qui tombent, qui se cassent. En bois, mais ça coûte cher. Et puis, il faudrait quelque chose de facile, léger, qui se transporte facilement.
On voulait toujours rester dans nos valeurs, c'est-à-dire de ne pas acheter de nouveaux produits, tout ça, essayer de rester éco-responsable. Donc pour ça, on a travaillé avec des choses qui sont recyclées, c'est-à-dire chute de tissu, etc. On a travaillé avec des bénévoles, c'est-à-dire les grands-mères qui voulaient bien, des fois même des profs qui nous ont aidés. On a aussi contacté des associations de couture qui nous ont aidés pour créer des porte-cartes, en fait, éco-responsable.
Alors, racontez-nous à quoi ça ressemble.
En fait, c'est fait à base de CD, donc on prend deux CD, on met du tissu avec de la mousse dedans, rembourré pour que ça soit confortable, on les assemble, on met un bouton au milieu et on glisse ces cartes entre les deux CD.
Et on peut voir ça sur votre site internet si vous posez des questions à quoi ça ressemble. Et donc, vous voilà au Festival de Cannes. Une sacrée aventure, vous attendiez à ça, à venir présenter votre jeu ici?
Non, du tout. On s'attendait à vendre 1000 boîtes comme ça, du bouche à oreille. Et après, un jour, on s'est dit, avant que le jeu soit même soigné, on avait déjà les mécaniques, on était prêts à presque l'imprimer. On a contacté plusieurs maisons d'édition pour avoir des retours, des avis, juste qu'on nous dise c'est bien ou c'est pas bien ou qu'est-ce qu'il faut changer. On a eu pas mal de maisons d'édition qui nous ont un peu dit, bon, bah non, on peut pas vous donner de votre temps. Par contre, c'est ce qui nous a permis de venir aujourd'hui. Ils en ont parlé au festival qui nous a gentiment invités. On a travaillé avec Asmodée aussi, à Sarah Favaron de Access Plus, qu'on remercie extrêmement, qui nous a aidés sur pas mal d'adaptations, qui nous a offert une semaine de test dans ses laboratoires. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Et le jeu a pu... elle nous a dit, le jeu, je le ferai pas à votre place. Par contre, je veux bien vous aider, répondre à toutes vos questions. Puis je vous offre... une semaine de test chez Asmodée, mais faites d'abord 500-600 tests pour être sûr de ce que vous rendez, parce qu'il y en aura une, pas deux.
Vous avez fait les tests comment?
Alors ça, c'était une grande aventure aussi. C'est-à-dire que nous, on a joué, mais nous, bah, c'est pas suffisant parce que nous, c'est notre projet, donc on peut pas évaluer vraiment. Donc on a demandé à toutes les personnes qui nous entourent, toutes les personnes qu'on connaissait, le bouche à oreille. Les gens ont testé, nous ont fait des retours sur ce qui allait, ce qui allait pas. Puis on a surtout pas trop géré sur ce coup-là, c'est qu'en fait, on a tout à la main. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on met cette carte-là et qu'on la met en 5 fois, qu'est-ce que ça fait? Alors qu'aujourd'hui, les grandes maisons d'édition utilisaient les logiciels qu'ils le font à leur place. Puisque nous, bah, on était des petits collégiens dans notre collège, dans une petite ville. Donc on s'est dit qu'on allait tout faire à la main.
Cette semaine chez Access Plus, qu'est-ce que ça a apporté au jeu? Est-ce que vous avez modifié des choses?
Alors oui, nous, à la base, on partait... En fait, il y a 8 étages dans la pyramide pour gravir l'Olympe. Et donc nous, on en avait mis 9. Elle nous a dit, là, c'est trop long, trop de temps d'installation, ça rallonge trop le jeu. Il y a quelques cartes qu'elle nous a supposé de changer, ce qu'on a fait. Après, le jeu, elle nous a dit qu'elle s'attendait pas à avoir un vrai jeu. Elle nous a dit, honnêtement, je m'attendais pas à avoir un vrai jeu, je m'attendais à autre chose de collégien. Et donc, elle était très surprise, et agréablement surprise, du coup, dans ce sens-là.
Elle nous a beaucoup aidé pour équilibrer, en fait, le nombre de tuiles qui montaient, qui allaient sur le côté, le nombre de cartes qui faisaient redescendre, qui faisaient monter. Parce que c'est vite fait de se tromper et de faire quelque chose qui est très déséquilibré.
Oui, effectivement, on a pu le tester, il y a des cartes qui sont violentes. Donc s'il y en a beaucoup, là, ça peut être dur. Hein.
Votre cible de joueur, c'est qui?
Alors nous, dans le jeu, il y a 4 modes de jeu. C'est-à-dire qu'il y a un jeu plus simple pour les personnes qui ne jouent pas beaucoup, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, faire un petit jeu familial. On a une partie aussi simple, une partie plus difficile et une partie vraiment experte. Pour les gros joueurs, comme ça fait un jeu. Pour une personne qui pourrait jouer avec ses amis qui sont des gros bourrins et qui veulent juste tout se défoncer entre eux, et une partie plus familiale avec, par exemple, je pense, les enfants ou les petits-enfants.
Il est donné à partir de quel âge?
À partir de 8 ans, il faut que l'enfant soit assez à l'aise avec la lecture, et s'il est dyslexique ou qu'il est plus petit que 8 ans, il peut être accompagné d'un adulte, ça fonctionne très bien.
Alors j'ai eu la chance de jeter un coup d'œil sur les règles, elles ont été très travaillées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été fait?
Alors, notre prof, qui est donc une prof de français, nous a été plutôt utile quand même, on va dire, pour ce passage-là. Il y a eu plus de 40 heures de travail sur les règles, donc ça a été vraiment relu. Je vous avoue qu'elle nous a beaucoup aidé vraiment pour les formulations de phrases surtout, parce que c'est compliqué de dire des choses qui sont claires en fait. Dans une règle de jeu, ça paraît pas grand-chose, mais 4, 5, 6, 7 pages comme ça, ça devient vite compliqué.
Et après, on a recontacté Sarah, on lui a dit bonjour, nous on a des règles prêtes, on a un jeu prêt à imprimer, mais il nous faut des professionnels pour nous aider à utiliser le bon vocabulaire. Parce que donc notre professeure, Madame Lemaire, sait jouer, elle joue. Après, elle nous a dit que de là, écrire des règles de jeu, elle était capable de le faire, mais pas forcément avec les bons mots. Donc, elle nous a aidé, enfin, Sarah a relu les règles et nous a aidé à utiliser le vocabulaire de joueur et le vocabulaire adapté. Et Sarah Favaron de Access Plus, avec qui on a travaillé.
Et au niveau des illustrations, comment s'est fait le choix? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez?
Alors, pas vraiment. En fait, on a envoyé une annonce sur un forum d'illustrateurs. Donc, notre illustrateur s'appelle Florian Mass. On le connaît pas du tout à la base. Ils ont été cinq peut-être à nous envoyer une illustration en fait, et à nous demander notre avis et de choisir celui qu'on préférait en fait. Donc, on a choisi Florian Mass. Il a été vraiment super sympa avec nous. Notre jeu, donc, il lui a nécessité 4 mois de travail, je dirais, à peu près. Et il nous l'a fait pour 3000 euros. Et on fait rapidement le calcul, 3000 euros pour 4 mois, ça fait pas beaucoup. Donc, il a été vraiment super sympa. Il a été à l'écoute, il nous a fait des belles illustrations. Voilà, je vous conseille d'aller le voir sur Instagram.
On rentre là dans le juridique. Vous disiez que vous étiez accompagné sur le juridique. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui ont été compliqués ou importants?
Alors, oui. Il y a un point pour protéger le jeu, en fait. Protéger l'idée de notre jeu. Ça a pu être un peu compliqué, on a fait le strict minimum, on va dire, mais sinon il fallait beaucoup plus loin en fait, et ça devient vite compliqué, donc on n'a pas voulu se lancer là-dedans, on a fait vraiment le strict minimum.
En fait, il faut savoir que de protéger un jeu, c'est très compliqué, parce que il suffit que quelqu'un reprenne le même jeu, enlève un étage de tuiles et c'est un autre jeu. On peut pas vraiment protéger un jeu, c'est très compliqué. On peut protéger un livret de règles, mais il suffit que quelqu'un change une règle et c'est plus le même jeu. Donc en fait, aujourd'hui, il est pas vraiment protégé, et on est en train de travailler là-dessus. Les autres problèmes juridiques qu'on a, c'est qu'on est mineur. On a une entreprise, on est mineur, donc normalement, on n'a pas le droit de, entre guillemets, se faire de l'argent et d'avoir une entreprise. Et donc, on est en train de travailler avec notre chef d'établissement et plusieurs personnes autres, enfin extérieures au collège, pour essayer de trouver une solution pour qu'on ait une entreprise et qu'on récupère nos parts à notre majorité.
Parce que justement, ce que va-t-il se passer quand vous allez quitter le collège? Est-ce que le jeu appartient toujours au groupe de 15 personnes? Est-ce qu'il appartient à la structure du collège ou à l'option?
Alors, la question se pose encore. Notre chef d'établissement aimerait que plus, qu'on puisse continuer et que pour sur notre CV un jour on puisse marquer qu'on a créé une entreprise et qu'on en est toujours qu'on en fait toujours partie, si vous voulez. Après c'est très compliqué parce que on va sûrement dispatcher donc dans plusieurs lycées différents, travailler sur télétravail ça peut être compliqué. Donc on est la question, enfin ouais, on laisse un petit point d'interrogation sur l'avenir pour l'instant.
Et puis c'est surtout que là, bah c'est bien, on a imprimé des jeux. Parce que l'année prochaine, en fait, le projet entre guillemets quitte le collège. C'est-à-dire que c'est pas une autre équipe qui reprendra notre jeu, c'est le nôtre, c'est notre projet. Et donc la question se pose de qu'est-ce qu'on veut en faire parce qu'on peut pas forcément laisser ça au collège. C'est pas la propriété du collège, c'est la nôtre. Et puis là, il y a quelque chose qui se pose vraiment, c'est que clairement les 15 personnes n'auront pas leur part dans la société. Parce que pour avoir les parts de société, il faut y être investi et savoir jouer au jeu. Quand on se rend compte qu'il y a certains élèves qui ne savent même pas les règles de base, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent récupérer des parts sur cette société qui ne leur appartient pas vraiment.
Pour la suite du jeu aussi, j'ai entendu que vous étiez à Cannes avec des rendez-vous avec des éditeurs pour pouvoir justement trouver une suite à ces premières impressions.
Alors oui, aujourd'hui, on s'est posé plusieurs questions. On a été voir le plus de professionnels possible parce que c'est toujours intéressant d'avoir des échanges avec des professionnels qui sont de ce monde-là, alors que nous, pas du tout. Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe, donc on n'avait jamais entendu... Enfin, moi, je n'avais pas entendu parler de ce festival-là du tout, ou alors très légèrement. Et donc, clairement, de rencontrer des professionnels qui, eux, font des milliers de jeux, ils font des millions de chiffres d'affaires par an, c'était clairement très intéressant, enrichissant, et ça nous a aidés à appréhender et à changer ce qu'il y avait à changer sur le jeu aussi, et d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours enrichissant pour la suite.
Et donc, vous allez travailler avec une maison d'édition pour de futures impressions ?
Alors, pour l'instant, non, parce que notre jeu a déjà été édité. Donc, pour les maisons d'édition, ça demanderait beaucoup de travail parce qu'eux, ils prennent des prototypes et ils les adaptent par rapport à eux. Alors que nous, c'est un jeu déjà prêt. Et donc, eux ne sont pas forcément prêts à faire tout ce parcours-là pour nous. Et donc, du coup, aujourd'hui, on chercherait plutôt un distributeur plutôt qu'une maison d'édition. Un distributeur, ça serait le plus simple, on pense, par rapport à nos attentes et à ce qu'on recherche.
Donc Stéphanie Lemeur vient de nous rejoindre. Merci Stéphanie d'être là.
Avec plaisir.
On va profiter de ta présence pour faire un petit fil rouge, qui est une série de questions pour te connaître un petit peu. Quel est ton jeu, Madeleine de Proust ?
Le Scrabble.
Quel est ton genre de jeu préféré ?
Jeu narratif, jeu d'ambiance.
Et du coup, quel est ton jeu préféré dans ce genre ?
Je suis désolée.
Non, non, bah,
là,
prends
tout
le
passe
temps.
En train de me dire, ok, non ça, non ça, non ça, non ça. Bon, après, en classique, Dixit.
Peux-tu nous citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque, mais dont tu as un peu honte ?
Quelques jeux pédagogiques que voilà, du coup, je ne vais pas citer, où je me suis dit, allez, ça peut toujours fonctionner avec les élèves, ça va leur donner le goût de la grammaire ou autre, et où effectivement, niveau interaction et tout, pas top. Mais je préfère pas citer.
Tu pars pour 3 semaines en vacances et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Lequel prends-tu ?
Tonnerre de tuiles.
Clairement, tonnerre de tuiles. Parce que ça fonctionne en jeu d'ambiance. J'ai les jeux avec des petits coups aussi où on embête ses adversaires. Voilà. Puis ça me ferait penser aux élèves encore. Et...
Oh.
C'est trop mignon.
C'est pas vraiment des vacances alors.
Avec eux, non. Mais clairement, il y a tellement de positifs aussi que c'est un bon moment.
Stéphanie,
oui.
Tu es invitée pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel prends-tu ?
Non, non, je peux pas répondre tonnerre de tuiles pour tout.
Moi, je trouve que ça fonctionne pour toutes les questions. Mais après,
ok, d'accord, ok, tonnerre de tuiles, mais ça fait vraiment placement de produit. Hein. Là, ça commence à faire...
C'est elle qui doit répondre.
Le Monopoly.
Allez, après, j'ai quand même pas mal d'amis qui ne sont pas joueurs et qui acceptent uniquement de jouer au tabou avec moi, donc bon.
Tu avais prévu un méga tournoi de Challenger à 8 personnes et tous tes amis t'ont lâché. Vous vous retrouvez à 2. Tu sors quel jeu ?
Ah, le Roi des Ribauds.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer ?
Alors là, il y en a beaucoup. Je suis quand même très admirative du travail. Après, une des dernières découvertes que j'ai pu faire en efficace, voilà, bon, trio, clairement. Simple, pas simpliste, efficace, ça fonctionne très bien.
Et dernière question, à quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
Si j'avais plus de temps, La Famille Guéa. Parce que j'ai déjà joué une ou deux fois, j'ai adoré, j'ai trouvé ça totalement décalé, original, très chouette, et j'aimerais rejouer rapidement. Voilà.
D'un point de vue encadrement, comment s'est déroulé ce projet ? Est-ce qu'il y a eu des points particuliers où il a fallu vraiment accompagner un peu plus les élèves ?
En fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que les élèves et moi, on était totalement novices. Et au niveau de l'encadrement, on a appris en même temps. Alors après, on est parti sur une idée de confiance, c'est-à-dire que il y a toutes les choses qu'on a pu faire. C'était à chaque fois de se mettre au courant les uns les autres, de prendre les décisions ensemble. Après, les dossiers de partenariat, oui, moi je suis professeur de français, je corrige les fautes. Donc forcément là-dessus ça aide, mais après les dossiers de partenariat, les échanges de mails qu'il y a pu avoir, les propositions, ça a été fait en même temps que les élèves. Il y a une chose à laquelle ils n'ont pas du tout participé, c'est la rédaction des règles du jeu au moment de avant l'impression. C'est-à-dire que les règles du jeu sont les élèves qui ont travaillé dessus, mais créer des règles, tester le jeu et les rédiger pour des personnes qui n'ont jamais joué alors que nous on baigne dans le jeu depuis un moment, savoir quel vocabulaire ludique employer, être synthétique, ce qui normalement n'est pas trop mon métier non plus, c'est plutôt d'essayer de développer, donc être synthétique, ça c'est quelque chose que j'ai dû faire sans les élèves et où j'ai pu être accompagnée par des professionnels pour me relire, essayer de gagner en efficacité. Après, sinon, au niveau de l'encadrement, non, on fait les choses ensemble, on prend les décisions ensemble, mais ça reste un projet qui pourrait rebuter certaines personnes, enfin certains collègues professeurs, parce que c'est extrêmement chronophage. En fait, vu qu'on s'est fait rapidement dépasser par les événements, c'est devenu une petite société, et en fait, moi, je suis quand même professeur à côté aussi, donc j'ai des cours assurés, des corrections. Les élèves, ils sont élèves, mais le soir quand ils rentrent, il faut qu'ils puissent se reposer, il faut qu'ils puissent avoir du temps pour préparer leur brevet. Donc,
est-ce que toi, tu fais partie de l'entreprise Cap Games ?
Il faut leur demander. Je me pose la question, en fait.
Un énorme oui.
Sans personne qui nous encadre, on n'aurait pas pu en être là aujourd'hui. Donc oui, tout le monde a ses parts dans la société, surtout Madame Le Maire.
Au niveau du temps de ce projet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? J'imagine que ça vous a dépassé aussi ?
Oui, je pense que... Donc, on se voit une heure par semaine. Clairement, on ne crée pas un jeu en une heure par semaine. Donc, on a dû avoir 36 heures de cours. Et en tout, sur un projet où on a dû passer un peu moins de 400 heures ensemble. Donc, après les cours, quand c'est possible, les élèves ne sont pas forcés, hein, je tiens à dire, ce sont ceux qui sont volontaires qui viennent. Le mercredi après-midi, le week-end aussi pour présenter les jeux, faire tourner les prototypes, parce qu'il y en a quand même eu un bon paquet fait à la photocopieuse, en découpant, en plastifiant, en jetant après quand ça ne fonctionnait pas. Après les présentations dans les magasins, donc on arrive, oui, à un peu moins de 400 heures. Quand on voit qu'une journée c'est 24 heures, je laisse calculer le nombre de nuits ou journées passées avec les élèves.
400 heures à 15 ou 17 heures soirée, effectivement, ça fait un certain volume de travail.
Pour le coup, c'était sur les heures là, c'était à 8.
À 8 ?
Oui, parce qu'en fait, il y a des élèves qui, comme toutes les entreprises ou tout, n'ont pas adhéré au projet. Donc, qui ont voté le projet. C'est ça qui était. Ils ont voté à l'unanimité l'idée du jeu. Certains qui se sont dit que assister déjà aux heures de cours, c'était parfait. D'autres qui ont voulu s'investir plus. Et là, sur ces 400 heures, sont les élèves que vous retrouvez sur le salon et qui ont tout créé de A à Z. Voilà.
Vous êtes descendu à combien de collégiens sur le salon de Cannes ?
Du coup, on est rendu à 8, les 8 qui ont investi ces heures précieuses.
Il me semble que tu m'avais dit en préambule que cette option avec les élèves n'était prévue au début que pour durer une seule année.
Exactement. En fait, c'était une option d'un an et qu'on a dû prolonger, tout simplement parce qu'au départ, on a eu 4 mois de brainstorming pour réussir à trouver une idée. Donc quand les élèves ont eu l'idée de faire un jeu de société familial et adapté, c'était le 18 janvier 2023. Donc on avait déjà perdu, tant mieux, mais quelques mois de l'année. Et on a fêté la sortie du jeu avec les partenaires le 21 janvier 2024. Donc on est quand même dans l'année, clairement, à 2-3 jours près. Pari tenu, mais il a fallu, c'était à cheval sur une autre année scolaire du coup... Voilà.
Le jeu a eu une campagne de financement participatif sur Ulule. C'est vous qui l'avez géré ou vous êtes fait aider justement par des gens qui ont l'habitude de ce type de démarche ?
Non, on a eu l'idée de se mettre sur Ulule. On a fait notre petit, on a créé notre campagne et puis ça s'est fait de fil en aiguille, du bouche à oreille, sur nos réseaux. On a communiqué. Donc.
On peut dire que pour la campagne Ulule, quand on a créé la campagne, on n'avait pas encore les règles précises. C'est-à-dire qu'on avait quelques illustrations en se disant, bon bah de toute façon, il y avait une idée du jeu, il y avait déjà les règles, il y avait le but, mais c'était pas encore affiné. Et donc les gens ont fait confiance ou se sont dit, ben, ce sont des collégiens, on a envie de les encourager. Mais clairement, par rapport à la campagne et ce qu'on laissait montrer des visuels ou autres dans la campagne, je pense que les gens ont été plutôt agréablement surpris du produit fini. Il n'y avait pas de visuel du tout là-dessus. Donc ça nous a permis de pouvoir continuer à tout produire comme on le souhaitait, d'avoir des matériaux de meilleure qualité. Donc ça nous a conforté aussi dans l'idée de se dire on va pas faire jouer comme acheteurs les parents du collège. Clairement, en interne, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Mais de se dire on va voir au niveau national des gens qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que ça peut donner, quoi.
Sur le salon, vous avez dû vivre une nouvelle expérience, c'est de présenter le jeu et expliquer les règles. Ça va, c'est pas trop compliqué ?
Alors, on avait quand même eu un petit peu des pré-salons, on va dire. On avait eu des petits salons déjà, salon du jeu, salon des petits trucs comme ça, où on avait quand même, on s'était bien entraîné. On n'est pas arrivé les mains vides ici, on va dire. On avait quelques petites expériences déjà.
Et je pourrais dire, on a tous un fil rouge dans le pitch des choses qu'on doit dire et que chacun dise la même chose aux clients. Et donc, c'est grâce à Super Meeple qui nous a aidés, qui nous a envoyé un mail en nous disant oui, bah ça, c'est bien de le dire, ça aussi. Et comme ça, ça fait que. Le client a un agréable moment, si je puis dire, avec nous, et que chacun a les mêmes informations, pas forcément dites de la même manière ni dans le même ordre, mais chacun a les mêmes informations sur le jeu. Et donc après, quand les gens en reparlent entre eux, ils disent « Ah oui, moi on m'a dit ça, moi aussi ». Comme ça, chacun a les mêmes, peut se faire le même avis, peut se construire un avis sur les mêmes bases.
C'est ça. Là-dessus, ils ont eu de la chance entre Philippe ou Étienne Delorme aussi, qui ont envoyé des messages aux élèves en disant ben, « un pitch, ça se fait comme ça. Moi, mes animateurs, je les briefe de telle ou telle manière. Entraînez-vous face à des gens qui sont joueurs, qui ne sont pas joueurs, pour voir ce que ça donne. » Et voilà, ça fait partie de l'accompagnement extérieur de tout le réseau qu'on a pu tisser petit à petit. Ce dont j'aimerais parler, rapidement, le fait de la fierté qu'un enseignant peut ressentir d'avoir des élèves aussi motivés, qui donnent autant de temps, qui s'investissent, qui en public et même en privé, quand on passe des moments ensemble, sont toujours à fond. Et je pense qu'il renvoie aussi une belle image de jeunes qui ont envie de se bouger et qui ont envie de faire les choses et d'accéder à leurs rêves, parce que bon, c'était quand même mettre la barre très haute. Et aussi l'idée de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, que ce soit des professionnels du monde de l'édition qui ont cru au projet quand ils ont pu recevoir des messages d'élèves en disant « bah voilà, on aimerait faire un jeu, comment est-ce qu'on fait un jeu ?» Toutes les rencontres super importantes de gens qui ont donné de leur temps pour essayer de faire au mieux, des contributeurs Ulule aussi, de fil en aiguille, je crois que toutes les... planète ont été alignées pour que le projet aboutisse à ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a autant, je pense, autant d'écho aussi. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont jalonné le chemin.
Et merci à ce beau projet, parce que porter des valeurs aussi fortes et aussi importantes pour le futur par la jeunesse, nous aussi on trouve ça très chouette.
Merci.
Merci à vous d'être venus. On était ravis de découvrir ce projet avec vous.
Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout...
Jouez bien !